Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, Eric Manirakiza au micro depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique à Washington DC. Au sommaire de cette édition du vendredi 6 octobre 2023, le gouvernement du Burkina Faso propose une modification de la loi sur le Conseil supérieur de la communication, accordant au chef de l'État le pouvoir de choisir directement son président.
C'était un recul incroyable. Au départ, à la création, c'était une nomination justement par le chef de l'État. Il y a eu un ensemble de luttes. Sur plusieurs années, on est arrivé à ce stade-là. Et même là, le combat était de permettre à l'institution d'être véritablement indépendante et de confier l'institution à des professionnels justement de médias.
Les premiers ministres du Niger et du Mali discutent de la coopération bilatérale et de la lutte contre le terrorisme lors d'une rencontre à Bamako. Au Tchad, le gouvernement émet un mandat d'arrêt international contre Succès Mastra, président des transformateurs, pour diverses accusations. L'opposition togolaise accuse le gouvernement de retarder les élections législatives prévues cette année, craignant une prolongation du mandat de l'Assemblée nationale.
Le régime porte l'entière responsabilité de la situation que nous vivons en ce moment. C'est de sa faute si le processus électoral est rentré dans une sorte d'impasse.
L'Afrique subsaharienne obtient un troisième siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour renforcer sa voix dans l'institution. Et l'administration Biden, ici aux États-Unis, défend sa décision d'ajouter une nouvelle section au mur frontalier sans changer sa politique migratoire avec le Mexique, malgré les critiques. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le gouvernement a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Succès Mastra, président du parti Les Transformateurs. Dans un document daté du 8 juin 2023 et qui vient d'être rendu public, les autorités judiciaires l'accusent de diverses infractions, notamment des tentatives de déstabilisation de l'ordre constitutionnel et l'autorité de l'État, l'incitation à la haine et à l'insurrection, ainsi que des atteintes à l'intégrité du territoire national et aux institutions de l'État. André Kodmajigar.
Selon Mohamed El Hadj Abanana, procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, ce mandat d'arrêt international est lancé contre l'opposant Dr. Succès Mastra suite à un direct diffusé sur sa page Facebook le 23 mai 2023. Pour le procureur général, le président du parti Les Transformateurs y a lancé des messages incitant à la haine et à la révolte des Tchadiens du Sud. Il l'accuse de leur avoir demandé de s'armer contre l'État tchadien. Le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena estime que ces messages vont à l'encontre de la cohésion sociale et viole les dispositions légales. Cette décision judiciaire est rendue publique alors que l'opposant Dr. Succès Mastra a annoncé son retour pour le 18 octobre prochain. André Kodumajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le premier ministre nigérien Ali Lamine Zeyin a effectué une visite hier jeudi à Bamako, la capitale malienne, pour des discussions avec son homologue malien Cheguel Kokala Maïga et plusieurs autres ministres. Les sujets abordés ont inclus la création d'une commission mixte et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Accueilli par plusieurs ministres à la mi-journée à l'aéroport international Modibo Keïta, Ali Lamine Zeyin, premier ministre du Niger, s'est ensuite entretenu avec son homologue malien, Cheguel Kokala Maïga, et les colonels Abdoulaye Maïga et Sadio Camara, respectivement ministres de l'administration territoriale et de la défense. Le point des travaux a été ensuite fait à Koulouba au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Écoutons Ali Lamine Zeyin.
Nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affecte nos États avec le soutien de qui vous savez. Là-dessus, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à cela. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'alliance qui vient d'être décidée entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années, et que là-dessus nous allons donner une forme en tout cas plus déterminée. Et ça, c'est en cela que nous avons, voilà un peu du moins ce que nous avons discuté.
Sous sanction de la CEDEAO, depuis la prise du pouvoir par le général Tiani et ses hommes, les journalistes maliens ont voulu s'enquérir de l'état de santé du Niger. Ali Lamine Zeyn.
Le Niger se porte pas mal. Le Niger fait face aux sanctions, comme vous le savez, illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, qui est censée travailler à l'intégration de nos États. Mais quand on voit certains agissements, ils tendent vers la désintégration de nos États. Et là-dessus, évidemment, les Nigériens sont déterminés, je vous dis bien, déterminés à y faire face. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah.
Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a rassuré du soutien du Mali à l'endroit du peuple nigérien dans cette phase critique.
L'armée malienne a indiqué jeudi soir qu'un important convoi de ses forces avait progressé jusqu'aux environs d'Anif, d'Anéfis, étape vers la ville stratégique de Kidal, fief de la rébellion séparatiste Touareg, qui a repris les armées contre l'État central. L'ex-footballeur star George Weah, élu président en 2017, remet son poste en jeu mardi face à 19 candidats lors d'élections indécises au Liberia où le développement et la paix sont au cœur du débat. Les autorités promettent des élections libres et pacifiques. L'Afrique va bientôt obtenir un troisième siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI pour renforcer sa représentation, a affirmé jeudi sa directrice générale lors d'une déclaration à Abidjan. Les précisions de Mohamedou Oumfa.
J'ai de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Nous nous préparons à avoir un troisième représentant pour l'Afrique subsaharienne au conseil d'administration, a-t-elle affirmé à l'occasion de son passage à Abidjan, en levée de rideau des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, qui débutent lundi à Marrakech, au Maroc. Des discussions sont en cours sur la manière dont le continent doit s'entendre et comment cela doit se faire, mais ce qui importe est que cela signifie une voix plus forte pour l'Afrique, a-t-elle ajouté dans un entretien avec l'AFP. La Banque mondiale a également annoncé la création d'un troisième siège pour les pays africains à son conseil d'administration, une décision qui devrait être validée à l'occasion des réunions annuelles. Ces annonces confirment la tendance d'un rééquilibrage du poids des pays en développement au sein des institutions de Bretton Woods. Actuellement, les États étant actionnaires, leur participation est au prorata de leur PIB, ce qui donne un pouvoir plus important aux États-Unis ou à l'Union européenne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration du président Joe Biden a affirmé qu'il ne changeait pas sa politique migratoire malgré l'annonce de l'ajout d'une nouvelle section au mur frontalier avec le Mexique, une mesure mise en place sous l'ancien président Donald Trump. Yacouba Ouedraogo. Je vous disais donc que l'administration du président Joe Biden promet d'ajouter une nouvelle section au mur frontalier avec le Mexique. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré qu'une nouvelle portion serait érigée dans la vallée du Rio Grande, secteur qui connaît un grand nombre d'entrées illégales à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d'empêcher les entrées illégales, a déclaré M. Mayorkas. Joe Biden avait affirmé le jour de son entrée en fonction en janvier 2021 que le contribuable ne paierait plus pour la construction d'un mur à la frontière et qu'un mur massif n'était pas une solution politique sérieuse. Joe Biden a assuré qu'il ne pouvait pas interrompre le financement engagé par son prédécesseur Donald Trump pour la construction du mur. L'argent était prévu pour le mur frontalier. J'ai essayé de convaincre les républicains au Congrès d'allouer les fonds à autre chose. Ils n'ont pas voulu, a affirmé le président américain. L'annonce de l'administration Biden montre que j'avais raison quand j'ai construit 900 km d'un mur frontalier tout beau, tout neuf, a réagi Donald Trump. L'immigration illégale est un problème politique croissant pour Biden, candidat à sa réélection en 2024 et accablé par les républicains qui l'accusent de laxisme.
Donald Trump aurait partagé des informations confidentielles sur des sous-marins nucléaires américains avec un homme d'affaires australien, puis avant son départ de la Maison-Blanche, indique jeudi soir ABC News et le New York Times. La scène s'est déroulée en avril 2021 dans la résidence de l'ancien président à Mar-a-Lago en Floride, un club dont l'Australien Anthony Pratt est également membre, selon ses médias, citant des sources non identifiées. L'ancien président, qui disait à son interlocuteur que l'Australie devrait acheter des sous-marins américains, a ainsi dévoilé le nombre de têtes nucléaires que ces engins embarquent en temps normal et à quelle distance ils peuvent approcher leurs homologues russes sans pouvoir être détectés, d'après les deux médias. Monsieur Pratt a été entendu à ce sujet par des enquêteurs fédéraux qui travaillent sur le dossier de la gestion présumée négligente par Donald Trump de dizaines de documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, rapportent les deux médias. Les dirigeants des 27 sont réunis ce vendredi à Grenade dans le sud de l'Espagne pour un sommet qui s'annonce dominé par le dossier migratoire, deux jours après un accord sur une réforme que Varsovie rejette. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nanit Talani dans sa Minute Éco.
Le Bénin doit adopter une approche concertée pour saisir les opportunités d'investissement dans l'agriculture, l'énergie, les transports et l'industrie verte, recommande la BAD dans son rapport 2023 lancé à Cotonou le 3 octobre dernier. D'après la BAD, Cotonou est déjà pleinement engagé dans le développement d'instruments innovants de financement vert, comme la récente émission d'obligations de développement durable et la banque verte de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, qui sera la première facilité de financement vert en Afrique. Le PIB du Mali devrait croître de 5,1% en 2023 et de 5,3% en 2024 grâce à plusieurs facteurs contributifs, indique la BAD. Parmi ces facteurs se trouve la reprise de la production de coton, la redynamisation des activités extractives avec l'adoption d'un nouveau code minier, l'extraction du lithium à partir de 2024, la relance du tissu industriel et l'appui de l'État à la restructuration des unités industrielles en difficulté.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans sa page sport. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Joël Embiid renonce à la France et s'engage avec les États-Unis pour les JO 2024.
Oui, la vedette camerounaise des Philadelphia Sixers a confirmé avoir renoncé à la France, qui tentait de l'attirer depuis 2 ans. Joël Embiid dit avoir choisi de défendre les couleurs des États-Unis pour le tournoi olympique 2024 de basket. Embiid, 29 ans, et qui possède 3 passeports camerounais, son pays de naissance, français et américain, est arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans. C'était difficile, évidemment, j'aime les 3 options, a déclaré Embiid, ajoutant « j'aime mon pays et je l'aime beaucoup, mais je voulais vraiment participer aux Jeux olympiques, c'est mon objectif et mon rêve ». En optant pour Team USA, Embiid rejoint une liste de superstars de la NBA, dont LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, qui ont fait part de leur intention de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
L'Olympique de Marseille accroché par Brighton en Europa League.
L'OM a été contraint au match nul par Brighton, 2-0 après avoir mené 2-0 au stade Vélodrome lors de la 2e journée de la Ligue Europa. Les Olympiens, déjà auteurs d'un match nul à l'Ajax Amsterdam, 3-0 lors de la 1e journée, ont marqué en 2 minutes par le Congolais Chancel Mbemba à la 19e et Jordan Veretout à la 20e. Mais les Anglais, meilleure attaque de Premier League après 7 journées, ont réduit le score par l'Allemand Pascal Gross à la 54e et égalisé en fin de match sur pénalty transformé par le Brésilien João Pedro à la 88e.
Et avant de nous quitter, Yacouba, l'Ukraine s'oppose à la réintégration d'équipes russes.
L'Ukraine demande à la FIFA et à l'UEFA, les instances internationales et européennes de football, de revenir sur leur décision de réintégrer les équipes russes de moins de 17 ans dans leur compétition. Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Sports et de la Jeunesse estime que cette décision porte atteinte aux droits des enfants ukrainiens qui ont été privés par la Russie du droit de s'entraîner en toute sécurité. Mercredi, la FIFA a levé la suspension des équipes russes des moins de 17 ans, leur permettant de participer à nouveau aux Coupes du monde hommes et femmes de la catégorie d'âge. Cette décision faisait suite à celle annoncée 10 jours plus tôt par l'UEFA, dont les compétitions sont qualificatives pour les tournois organisés par la FIFA.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Eric Manelakidza, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué mercredi des changements importants au sein de la gendarmerie nationale en remplaçant le chef de l'état-major, le lieutenant-colonel Evrard Somda. Par ailleurs, le gouvernement a adopté un projet de loi qui modifie la loi sur le Conseil supérieur de la communication, permettant au chef de l'État de choisir directement le président du Conseil. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Serge Oulon, directeur de publication du journal L'Événement.
Il n'y avait pas matière à trop discuter, sauf que au Burkina, en fin septembre, le gouvernement a fait cas d'une tentative de déstabilisation avec l'arrestation d'un certain nombre d'officiers, parmi lesquels il y a des officiers de gendarmerie. Et avec tout ce qu'on a eu comme information, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien de la justice militaire, on ne peut pas ne pas faire de lien entre ce projet de déstabilisation avancé par l'exécutif et puis les changements opérés au niveau de la gendarmerie. Peut-être qu'on s'est dit à un certain niveau qu'il y a une certaine implication des responsables de la gendarmerie.
Les changements concernent quand même des postes de logisticiens surtout. Pourquoi selon vous?
Dans une armée, la logistique, le matériel, c'est quand même des postes importants. Peut-être l'hypothèse serait que ceux qui occupaient ces postes n'étaient pas suffisamment peut-être loyaux ou fidèles. Donc dans le schéma de sécuriser le pouvoir ou bien de s'assurer qu'il n'y aurait pas de collusion, de complicité ou bien une mise en intelligence de responsables à son niveau. Il faut rappeler que ceux qui prennent ces décisions sont eux aussi issus d'un putsch et ils savent certainement peut-être comment ça se passe, quels sont les postes clés où il faut avoir une main, où il faut s'assurer de la loyauté, de la fidélité de ceux qui occupent des responsabilités.
L'autre volet, ça concerne le Conseil supérieur de la communication. Le gouvernement a adopté un projet de loi qui dit que désormais, le président du CSC sera nommé par le chef de l'État, mais aussi les comptes sur les réseaux sociaux qui comptent plus de 5000 abonnés seront considérés comme des médias. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
On ne peut que regretter cette attitude du gouvernement de transition. C'était un recul incroyable. Au départ, à la création, c'était une nomination justement par le chef de l'État. Il y a eu un ensemble de luttes. Sur plusieurs années, on est arrivé à ce stade-là. Et même là, le combat était de permettre à l'institution d'être véritablement indépendante et de confier l'institution à des professionnels justement de médias. Parce que le président, l'exécutif, de façon globale, se retrouva avec un grand nombre de conseils. Et malheureusement, au lieu de revoir cela, c'est carrément faire une sorte de caporalisation, de faire une sorte de mainmise sur l'institution, décidant, entre autres, justement, de nommer le président de l'institution, que ce président nommé par le chef de l'État soit à son tour désigne son vice-président. Et encore qu'il y a des mesures qui sont prévues dans cette loi. Par exemple, des perquisitions de 6h à 21h dans un média, c'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est pour cela que les organisations professionnelles, à travers le centre de presse norvège ont organisé une conférence de presse le 5 octobre pour dénoncer tout cela et rejeter à l'avance toute idée de vouloir caporaliser l'institution et espérer que l'Assemblée législative de transition, l'organe législatif, va quand même revoir les choses et surtout ne pas être comme une caisse de résonance en adoptant ou en votant ce projet de loi.
Serge Oulon, directeur de publication du journal L'Événement.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La dynamique pour la majorité du peuple, un regroupement de partis politiques de l'opposition au Togo, accuse le gouvernement de retarder l'organisation des élections législatives prévues cette année. Alors que le mandat de l'Assemblée nationale actuelle se termine dans 3 mois, aucune date ni chronogramme n'est annoncé. suscitant des craintes d'une prolongation de ce mandat. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Annoncé pour se tenir avant la fin de cette année, le processus devant aboutir aux élections législatives est dans l'impasse. C'est ce que pense Kafui Adjamagbo, secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains, membre de la dynamique pour la majorité du peuple. Elle accuse le gouvernement en place.
Le régime porte l'entière responsabilité de la situation que nous vivons en ce moment. C'est de sa faute si le processus électoral est rentré dans une sorte d'impasse. À force de vouloir faire des calculs, de vouloir utiliser tous les moyens pour s'assurer qu'encore une fois, les élections seront organisées de manière opaque pour qu'on puisse, au travers de ces élections-là, se prévaloir d'une assise légale pour continuer à dominer le pays.
Le mandat de l'Assemblée nationale actuelle s'achève le 31 décembre prochain. Gérard Adja, porte-parole de la DMP, avertit qu'il n'est pas question de prolonger le mandat des députés comme le prévoit la Constitution.
La DMP n'acceptera pas qu'il y ait une prolongation de fait ou organisée par le pouvoir de manière unilatérale toute décision sur la prolongation éventuelle du mandat de l'actuelle Assemblée nationale devra être le résultat des discussions franches et sincères dans un cadre au cours duquel l'ensemble des problèmes à résoudre seront évoqués.
Pour Sylvestre Béni, journaliste et analyste politique, le pouvoir a le beau rôle dans cette situation. Les dispositions de la Constitution togolaise sur la prolongation du mandat des députés sont très claires.
Lorsque vous prenez donc la loi fondamentale, la disposition ségantée, l'alinéa 11, il est dit les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont sortant reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de ceux qui vont venir. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons déjà observé en 2012. Et à l'époque, c'est la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée en se fondant sur les dispositions de l'article 52 alinéa 11. Voyez-vous, donc la situation que nous vivons aujourd'hui, le pouvoir peut se dire, nous sommes dans la légalité.
Kafui Adjamagbo, secrétaire général de la CDPA, estime qu'on ne saurait évoquer la parade constitutionnelle pour maintenir une Assemblée nationale qui n'a pas été utile au Togo et qui a aidé le pouvoir à appauvrir les Togolais.
Mais vous vous rendez compte, est-ce que ce ne serait pas trop facile de se baser sur cette disposition pour laisser en place une assemblée sans aucune légitimité? Et donc, nous pensons que prolonger ce mandat-là, ne serait-ce que d'une seconde, est préjudiciable aux Togolais.
L'opposition qui avait boycotté les législatives de 2018 tient à l'organisation de ce scrutin dans les meilleurs délais pour son retour à l'Assemblée nationale. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Congo-Brazzaville, d'anciens miliciens ninja attendent toujours leur réinsertion dans la vie sociale et économique, tandis que la population des localités concernées appelle à leur réintégration définitive dans les familles. Lors d'un forum organisé samedi dernier par le Centre d'action pour le développement à Kinala, le chef-lieu du pôle, les habitants ont exprimé leur souhait d'accélérer ce processus. Notre correspondant Arsène Séverin s'est rendu sur place. Son reportage.
Si le calme règne déjà depuis quelques années dans le pool, la présence des ninjas ne rassure pas la population. Ces derniers, en effet, ne sont toujours pas réinsérés dans la vie sociale, tels que le stipulent les accords de paix de 1999, de 2002 et récemment de 2017. Un habitant de Kinkala s'interroge éperdument.
Que sont les chefs de quartier qu'on a responsabilisés pour sensibiliser les ninjas. Enfin, mais est-ce que les ninjas vont même les écouter? Le seul et l'unique monsieur capable d'opérer normalement, c'est de prendre le révérend Pasteur Ntoumi, chef des ninjas, d'organiser la sensibilisation, l'identification et tout ce qui s'ensuit. Mais même les chrétiens disent que si Dieu ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain.
Ils sont aujourd'hui quelques 5000 ninjas en stand-by, partis depuis des années et dont les parents attendent indéfiniment le retour. Noël Mianzambi, un des parents résidant à Kinkala.
La dissolution ne consiste pas seulement à leur donner du travail, à leur donner de l'argent, mais la dissolution consiste aussi au retour de ces enfants-là dans les bras de leur famille. Parce qu'ils doivent créer leur famille aussi. Mais ils ne vont pas les créer pendant qu'ils sont en attente d'une situation qui ne naît jamais.
Des jeunes qui ont pourtant du potentiel et aptes à travailler, tel que l'indique Marcel Bicou, ingénieur des travaux.
C'est moi qui ai fait les voiries de Kinkala. Après que la SEC, je suis parti à dragage. J'ai commencé la route Kinkala-Mendouli. La quasi-totalité des jeunes qui travaillent ici ne sont pas du département du Pau. On a des jeunes qualifiés. Ils ne sont pas employés. Mais la main-d'œuvre doit être réservée aux gens du département du Pau. Les gens qui ne sont pas préparés ou bien qualifiés, on doit les former.
Le samedi dernier, le Centre d'action pour le développement CAD a organisé un forum pour la démocratie et les droits humains. Plusieurs personnes sont venues pour s'exprimer et interpeller les autorités. Trésor Ndila Kende, directeur exécutif du CAD.
La lourde responsabilité que nous avons en tant que défenseurs des droits humains pour accompagner ces populations à la recherche des solutions. Je suis satisfait de la rencontre. Ces femmes et ces hommes se sont exprimés en toute liberté. Les solutions ne viennent pas tout de suite, mais on continue à faire pression, on continue à rappeler. C'est de la responsabilité de nos dirigeants de résoudre nos problèmes. Mais nous avons le sentiment que ça traîne dans les prises de décision. Peut-être que les priorités sont ailleurs.
Le CAD promet de transmettre toutes ses préoccupations auprès des autorités. De retour de Kinkala, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Fin juillet, le Parlement ghanéen a criminalisé l'accusation de sorcellerie. Si le président promulguait la loi, celle-ci entraînera la fermeture des camps où des centaines de personnes accusées de sorcellerie ont été envoyées. Reportage de Hamza Adams à Kumasi, le récit signé Lionel Lunanira Gahima.
Tous les matins, Fatima vient dans ce camp pour aider sa mère. Celle-ci y vit depuis 5 ans après avoir été accusée de sorcellerie. Fatima, qui n'utilise que son prénom, raconte que sa mère vient du nord du Ghana, où les croyances traditionnelles sont profondément enracinées. Elle ne peut pas y retourner car il est difficile de se débarrasser des accusations de sorcellerie.
Cela fait 5 ans que les guérisseurs traditionnels de ce camp ont déclaré que ma mère n'était pas une sorcière. Nous voulons la ramener chez nous, mais la communauté ne veut pas l'accepter. C'est pourquoi je suis venue ici, pour m'occuper d'elle.
Plus de 500 personnes accusées de sorcellerie vivent dans ce camp. Près de 67% sont des veuves et celles-ci sont exposées à la violence, selon le rapport 2022 de Songtaba, une organisation de défense des droits de l'homme. En 2020, une femme de 90 ans accusée de sorcellerie a été battue à mort à Kafaba, dans la région des savanes au Ghana. Pour Geneviève Partington d'Amnesty International, de telles attaques sont inacceptables.
Les gens pensent que lorsqu'on accuse quelqu'un d'être un sorcier, ils peuvent le lyncher, le battre et le soumettre à toutes sortes de violations des droits de l'homme. Et ce n'est pas juste.
En juillet, le Parlement ghanéen a adopté un projet de loi criminalisant l'accusation de sorcellerie, mais ce projet attend toujours la signature du président Nana Akufo-Addo. S'il est mis en œuvre, il entraînera la fermeture des camps arbitrant des personnes accusées de sorcellerie dans tout le pays. Francis Xavier Sossou est le parlementaire ayant proposé la mesure.
Même au niveau des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, l'examen périodique du Ghana a toujours fait référence à cette situation et aux femmes placées dans les camps de sorcières. C'est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Les groupes de défense des droits de l'homme ont salué les efforts du Parlement ghanéen. Le projet de loi prévoit également des sanctions pour ceux qui lancent les accusations de sorcellerie, souligne Madame Partington d'Amnesty.
If you abuse physically, emotionally,
désormais, si vous maltraitez physiquement ou émotionnellement une personne ou si vous l'accusez de sorcellerie, vous serez passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Je pense que c'est quelque chose de très important.
En 2014, le gouvernement ghanéen n'a réussi à fermer qu'un seul de 6 camps de sorcières du pays. Les analystes espèrent que l'adoption du projet de loi et la fermeture des 5 camps restants mettront fin à l'exil et aux souffrances des centaines de femmes accusées de sorcellerie.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro, à la mise en onde de Lionel Lunanilagahima. Un grand merci à la rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.